Bonjour, vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Un invité aujourd'hui, Hervé de Chalendard, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace, chargé en particulier d'une revue que nous présentons régulièrement à l'antenne de Radio Judaïka, Les Saisons d'Alsace. C'est le numéro 93, consacré à l'Alsace au temps de la guerre froide, qui nous intéresse aujourd'hui. Il est sorti à la toute fin de l'été. Mmh. La guerre froide, c'est une période singulière de l'histoire qui succède à la Seconde Guerre mondiale, qui était, elle, une guerre chaude, voilà. Pour prendre le contre-pied de l'expression « guerre froide ». Peut-on la définir plus précisément dans le temps, mais aussi dans son objet historique?
Bonjour. La guerre froide, c'est la conséquence directe de la Seconde Guerre mondiale. Son début, il peut y avoir des débats sur le fait de savoir quand est-ce qu'elle a vraiment commencé. Toujours est-il que dès 1946, Winston Churchill parle du fameux Iron Curtain, c'est-à-dire le rideau de fer, l'expression qui a fait florès évidemment et qui a très bien défini ce qu'était cette guerre froide, c'est-à-dire un rideau de fer qui séparait l'Europe en deux et au-delà de ça qui séparait le monde en deux. La fin... Là aussi, il peut y avoir débat. Le début de la fin, c'est évidemment la chute du mur de Berlin en novembre 1989. Mais on peut considérer que la véritable fin de la guerre froide, c'est 1991, quand il y a eu la dissolution de l'Union soviétique. Et donc, c'était le monde coupé en deux, entre deux grands blocs, qui étaient d'un côté le bloc communiste soviétique, et puis de l'autre côté, le bloc capitaliste, impérialiste. Donc le premier, évidemment, dirigé par l'Union soviétique, avec des pays satellites qui étaient toute l'Europe de l'Est, mais qui étaient évidemment aussi beaucoup d'autres pays dans le monde, en particulier Cuba. Et puis le monde occidental. Et puis donc, ça a été une période d'extrême tension. Mais finalement, ça n'a pas été une guerre chaude. Enfin, en tout cas, ça l'a été dans pas mal d'endroits du monde de façon un peu comme ça sporadique.
Conflit périphérique.
Voilà. Mais là où on craignait le plus la tension, parce que c'était là où il y avait vraiment la cristallisation du conflit, c'était au sein de l'Europe, avec ce fameux rideau de fer, avec l'exemple de Berlin-Ouest, qui était une enclave totalement surréaliste aujourd'hui de penser ça, mais c'était une enclave de l'Ouest en plein cœur de l'Est. Mais il y a eu un tel, finalement, niveau de tension des deux côtés, avec la menace nucléaire, et puis avec la grande période du contre-espionnage, du renseignement, etc., des coups tordus, qui font que finalement, ça s'est équilibré, quoi. Et alors, il se trouve qu'aujourd'hui, on reparle beaucoup de la guerre froide, parce que, de nouveau, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier, on se retrouve un peu face à ce schéma du Kremlin, de Moscou, de l'Union soviétique, enfin, l'ex-Union soviétique, la Russie, qui se retrouve opposée au monde occidental mais sachant que les choses sont très différentes, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, évidemment, c'est tout sauf froid. Et ça nous a donné envie, pardon, de concrétiser ce projet qu'on avait depuis longtemps, d'aborder cette période-là, parce qu'on se doutait bien que l'Alsace serait encore au cœur des enjeux. Alors, on ne l'avait pas fait parce que c'est une période relativement récente et qu'on laisse généralement un peu de temps avant de s'attaquer à une période historique comme ça. Mais c'était le moment de le faire et ça a été effectivement... Ça nous a révélé que c'était vraiment une période très riche durant laquelle l'Alsace était encore une nouvelle fois aux premières loges.
Alors, l'Alsace est une région frontalière de l'Allemagne, et de ce fait, elle est directement concernée par cet épisode de la guerre froide, avec en particulier tout un tissu d'infrastructures militaires, voilà, implantées sur son territoires et singulièrement des bases aériennes.
Voilà. Alors c'est toujours ce qui fait que l'Alsace est une terre d'histoire au singulier et au pluriel, c'est sa position géographique qui fait qu'elle est toujours au centre de tous les enjeux. C'était évidemment le cas, on va pas refaire remonter loin dans le temps, mais enfin, elle était au cœur de 1870-1871, au cœur des deux guerres mondiales. Et là, bah, effectivement, c'est la région de France la plus à l'est, c'était la plus proche de ce fameux rideau de fer. Il paraît qu'on attribue une expression au général de Gaulle qui disait qu'entre le rideau de fer et la France, en l'occurrence l'Allemagne, l'Alsace, c'était une étape du Tour de France. La partie la plus étroite, c'est 200 km. Et puis, donc, c'était l'endroit, l'Alsace, où il fallait faire passer les armées en cas d'attaque. Donc, l'Alsace était au cœur des enjeux. Il y avait, sur la rive droite, les forces françaises en Allemagne, évidemment. Il y avait beaucoup de bases aussi en Lorraine. Et puis, il y avait énormément de bases en Alsace. Alors, on a dans ce numéro, on a fait une carte militaire de la guerre froide, de l'Alsace au temps de la guerre froide, qui est en réalité une carte inédite, parce qu'on a travaillé avec le gouverneur militaire de Strasbourg, etc. On nous a beaucoup aidés là-bas. On a eu la chance de tomber sur des gens qui étaient très intéressés par ce projet. Mais en fait, ce genre de carte n'existait pas. Il y avait plein d'informations qui sont évidemment enregistrées un peu partout, mais cette synthèse n'existait pas. Donc on a fait cette synthèse, histoire de bien montrer cette suractivité militaire qu'il y a eu dans la région, cette surdensité. Et donc, vous parlez des bases aériennes. Il y avait effectivement donc les bases aériennes de l'OTAN. On en a dans notre carte, donc en comptant la rive droite du Rhin, la proche Allemagne, la Lorraine, l'Alsace, on arrive à une vingtaine de bases. En Alsace, il y en avait trois importantes, qui étaient Ensheim, Meyenheim et puis Drachenbrunn, qui était une base radar. Alors, les trois étaient des bases de l'OTAN, des bases françaises. Et puis pas très loin, il y avait des bases américaines, des bases canadiennes, il y avait les Américains à Falsbourg, il y avait et à Ramstein, il y avait les Canadiens à Grostenquin, à Zweibrücken, à Lahr, etc. Et ce qui fait que l'Alsace était au centre d'une suractivité, parce que ces bases, elles étaient là aussi pour réagir, pour s'entraîner, pour aller au plus près possible du rideau de fer, etc. Et donc... tous les Alsaciens qui ont un peu d'années, qui sont nés avant les années 80, évidemment, se souviennent des murs de son, etc. Quoi.
Il y a également, vous le disiez à l'instant, les forces françaises en Allemagne,
voilà,
qui sont établies pour l'essentiel dans le pays de Bade, dans le Württemberg, mais qui sont également connectées à notre région.
Absolument. Donc on fait un petit focus aussi avec une dame qui a vécu là-bas longtemps, qui a été professeure d'histoire au lycée Charles de Gaulle durant toute une grande partie de la période de vie, si je puis dire, des FFA. Enfin, elle, c'était entre les années 1970 et 1990. Alors ça nous permet de rappeler quelle était un peu cette ambiance très particulière des FFA, des forces françaises en Allemagne, en particulier à Baden-Baden. Il y avait une communauté française qui vivait dans des quartiers à part, dans des cités qui leur étaient propres. C'est là où il y avait le commandant en chef, donc il y avait tout un monde comme ça, une espèce d'îlot qui était un peu en vase clos. Et évidemment, donc il y avait tout un maillage militaire très très important sur cette rive droite du Rhin, et qui était évidemment en liaison avec ce qui se passait sur l'autre rive. Et donc il y avait ces bases aériennes, et il y avait quelque chose aussi de très important en Alsace, c'était la division du Rhin, qui, donc là aussi, ceux qui sont un peu, qui font partie des moins jeunes d'entre nous, se souviennent très bien de toutes les manœuvres qui existaient sur le Rhin pendant des années, à intervalles réguliers. Il fallait que cette division du Rhin, qui était... entre parenthèses, composé à 90% de réservistes, mais qui fonctionnait très bien, soit capable de faire franchir le Rhin en un temps record à tout un corps d'armée, sachant que le postulat de départ, c'est qu'évidemment, dès les premières minutes du conflit, les infrastructures routières, les ponts seraient détruits. Et donc, il y avait cet entraînement qui était permanent, qui était très important. Et j'en profite pour dire aussi que dans ce numéro, on a un article assez édifiant de Michel Knittel qui détaille tous les plans d'attaque du pacte de Varsovie. Donc, pour revenir sur ce qu'était cette guerre froide, il y avait le monde divisé en deux blocs, et il y avait en gros deux grandes structures militaires, on va dire, enfin coalitions, qui étaient l'OTAN, qui existe évidemment toujours, pour le monde occidental, et puis le pacte de Varsovie pour le monde communiste soviétique. Et il se trouve que ce pacte de Varsovie, comme l'OTAN, avait des plans soit défensifs, soit offensifs. Curieusement, parce que Staline a laissé quand même un souvenir assez détestable, durant la période de Staline, c'était surtout défensif. Mais après sa mort, en 1953, il y a aussi eu des plans offensifs qui ont été élaborés du côté de l'Est. Et évidemment, l'Alsace était en première ligne, bien sûr. Elle aurait été directement touchée. Et donc, ce qu'il fallait, c'était, du côté de l'OTAN, c'était de gagner ce qu'ils appelaient la bataille de l'avant, qui aurait été une bataille qui serait déroulée sur l'espace assez étroit de l'Allemagne de l'Ouest. Et donc, encore une fois, l'Alsace était essentielle parce qu'il fallait que tout passe par là et que cette bataille se déroule le plus vite possible pour stopper l'éventuelle offensive des soviétiques. Voilà, alors il y avait des plans qui sont encore une fois assez terrifiants parce qu'ils étaient censés arriver sur les bords du Rhin en 7 jours, à Lyon en 9 jours, détruire plusieurs villes comme Stuttgart, Nuremberg, Bruxelles par l'arme atomique, enfin des choses absolument édifiantes. On sait, et on le voit aujourd'hui avec la Russie en Ukraine, que les plans de guerre éclair ne sont pas toujours suivis des faits. Mais enfin voilà, et ça montre à quel point cette guerre était une vraie guerre, même si elle n'a pas dégénéré dans un conflit ouvert, quoi. Et l'Alsace, encore une fois, était au centre de tout.
C'est également une guerre du renseignement.
Ouais.
Et donc les grandes oreilles vont jouer un rôle fondamental.
Voilà. Donc là, évidemment, c'est l'occasion de parler de ces grandes oreilles qui sont toujours actives aujourd'hui. Il se trouve que l'Alsace accueille les deux seuls centres pour l'armée de terre en France qui font office de grandes oreilles aujourd'hui. Ça se trouve en Alsace. Et là encore, ce n'est pas un hasard. Hein. On est quand même les plus proches de la frontière de l'Est et on le voit bien aujourd'hui, c'est toujours aussi quand même ce qui se passe du côté de l'extrême-est qui nous intéresse. Et donc, ça avait un rôle essentiel pendant cette période-là, et ça reste toujours une spécificité alsacienne d'avoir cette activité de renseignement. Donc, il y a deux grandes unités qui s'occupent de ça. C'est le 54e régiment de transmission qui est Agno-Oberhofen, et le 44e, qui est un régiment de transmission aussi, qui est à Mutzig. Donc tout le monde connaît les antennes qui dominent Mutzig sur la colline. Parfois on croit que ce sont des grues, mais non. Ce sont des grues qui sont là en permanence, donc ce ne sont pas des grues, ce sont des antennes. Et donc ça fonctionne encore, et évidemment ça avait un rôle accru à l'époque de la guerre froide. Et puis pour l'anecdote, on fait un petit focus sur un endroit très particulier qu'on appelle communément le bunker, hein, qui est surnommé le bunker, qui est un bâtiment qui se trouve au quartier Leclerc à Ilkirch, qui abrite aujourd'hui l'état-major de la 2e brigade blindée, et plus pour longtemps d'ailleurs, et qui est un bâtiment extrêmement curieux parce que c'est un bunker, qui est pourtant au centre d'un quartier militaire, donc a priori il n'y a pas trop de risques, avec très peu d'ouverture extérieure. Et en fait, c'était l'endroit où, donc il a été construit en 1984, l'endroit où l'on apportait toutes les informations comme ça, électromagnétiques, qu'on avait pu récupérer à la fois depuis Mutzig et puis dans l'Allemagne de l'Ouest, au plus proche du rideau de fer. Et puis on les analysait ici. Et on faisait en sorte que les ondes qu'on émettait nous-mêmes ne soient pas également récupérées depuis l'extérieur. Donc c'est pour ça que ce bâtiment, il ne se protège pas de frappe ou de bombardement ou de choses comme ça, il se protège du vol d'ondes. Donc on fait un petit éclairage là-dessus aussi, mais c'est aussi l'occasion de rappeler que l'Alsace est aussi une terre d'écoute, quoi. Et le 54e et le 44e sont encore très actifs aujourd'hui et ils se déplacent notamment lors des opérations extérieures. Ils ont des moyens projetables pour aller aussi au plus près dans le Sahel, par exemple, quand il y a des interventions pour faire de l'écoute. Alors, juste aussi pour dire qu'il y a le général de Goulange qui nous a aidés pour ce numéro. Le général de Goulange, C'est l'ancien patron de Mützig et c'est aujourd'hui, donc c'est un très bon connaisseur du sujet, et c'est aujourd'hui le président d'une association qui s'appelle l'AGEAT, l'association de la guerre électronique de l'armée de terre, si je ne me trompe pas, et qui a pas mal de matériel qui est stocké à Mützig et qui raconte cette histoire de la guerre électronique depuis son invention, on va dire, lors de la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Et donc il y a à la fois le renseignement électromagnétique qui aide à récupérer ce que produit, ce qu'émet l'ennemi. Puis il y a la guerre électronique qui essaie de brouiller ce que veut faire l'ennemi. Et donc voilà, et tout ça c'est aussi effectivement un des aspects qu'on raconte dans ce numéro.
Nous allons marquer une première pause musicale dans cette émission Passé-Présent. Je vous retrouve ensuite, Hervé de Chalendar, pour poursuivre la présentation de ce numéro 93 des Saisons d'Alsace, consacré à l'Alsace au temps de la guerre froide. C'est Alain Souchon qui va nous accompagner en chanson tout au long de cette émission. Nous écoutons pour commencer un titre de 1977, Allô, maman, bobo.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall. Je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Moi, je voulais les sorties de port à la voile. La nuit parée les étoiles. Moi, les chevaux, le revolver et le chapeau clown. La belle Peggy du saloon. J'suis mal en homme dur et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop rêveur. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. Je suis mal en campagne, je suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman.
Allô, maman, bobo. Maman, Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Mon invité aujourd'hui, Hervé de Chalendar, pour évoquer le numéro 93 des Saisons d'Alsace, l'Alsace au temps de la guerre froide. C'est aussi une période où des événements singuliers vont se dérouler en Alsace. Je pense en particulier à cet attentat du 17 mai 1957 contre l'hôtel du préfet qui va coûter la vie à Henriette Trébeau, qui n'est autre que l'épouse du préfet de l'époque.
Voilà. Donc, je crois que c'est plutôt 57. Oui, non, effectivement, j'avais un doute. Oui, alors ça, c'est vraiment un roman, quoi. Alors, la guerre froide, ce sont des histoires où le romanesque se mêle au réel, avec chaque fois un aspect tragique, mais on a vraiment l'impression d'être dans un roman très souvent. Et là, c'est vraiment le cas. Ce jour-là, il y a une réception qui est organisée à l'hôtel du préfet. Donc, c'est la préfecture du Bas-Rhin, on est à Strasbourg, à côté de la place Broglie. Et sur le coup de midi, on entend une explosion à l'étage. Et en fait, la femme du préfet, qui s'appelait Henriette Trémeau, donc le préfet Trémeau, a ouvert pour ses invités une boîte de cigares qui avait été envoyée en cadeau par un mystérieux fabricant de cigares à la préfecture. Et la boîte de cigares était piégée. La femme du préfet décède sur le coup. Et donc, il y a eu toute une enquête qui a été évidemment diligentée. Et c'est tout à fait rocambolesque parce que, alors, il y a eu plusieurs pistes dans un premier temps. On s'est demandé si ça pouvait pas être une piste autonomiste, mais on s'est vite rendu compte que ça n'était pas la route. Pareil pour l'Algérie. Il se trouve que ce préfet, juste avant de venir en poste dans le Bas-Rhin, était à Alger. Mais il avait de très bonnes relations avec un peu tout le monde là-bas et ça ne tenait pas la route non plus. Et puis les soupçons sont orientés vers l'Allemagne. Il se trouve qu'il y avait eu des lettres envoyées peu de temps avant par un mystérieux groupuscule qui dénonçait les oppresseurs français, etc. Et donc ça s'est orienté vers cette piste-là. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était une manipulation et que dans les années 60-70, il y a eu deux anciens espions tchécoslovaques qui ont lâché le morceau, qui ont écrit des livres, qui ont changé de camp et qui ont permis finalement de découvrir le fond de l'histoire. C'était le KGB, c'était les services soviétiques qui en fait s'inquiétaient du rapprochement franco-allemand. Ils étaient pas très, il y avait le traité de Rome à peu près au même moment et c'était dans le but d'envenimer les affaires entre la France et l'Allemagne. Et voilà, mais c'est vrai que là, on est typiquement dans les films, dans les James Bond, dans les John le Carré, enfin voilà, dans les choses complètement folles, et qui font évidemment des victimes innocentes. En l'occurrence, le crime n'a jamais été jugé, c'est un crime impuni. Et donc, ouais, il y a comme ça, comme plusieurs histoires, quoi.
Autre affaire d'espionnage, l'énigme Maurice Picard.
Voilà, ça aussi c'est...
Lui-même préfet du Haut-Rhin.
Voilà, donc là c'est carrément un préfet du Haut-Rhin. Il avait été préfet du Haut-Rhin entre 59 et 66. Il avait travaillé ensuite, je crois, au ministère de l'Intérieur et puis il était préfet hors cadre en 1968, donc 2 ans après avoir quitté le Haut-Rhin. Il était resté longtemps dans le Haut-Rhin, il était resté 7 ans. À l'époque, on restait près de 10 ans plutôt, 9 ans.
Généralement, c'est 3 ans.
Voilà, aujourd'hui, c'est 3-4 ans. Lui, c'était entre 59 et 66. Et il avait laissé un plutôt bon souvenir, d'ailleurs. C'était quelqu'un d'assez jovial, un peu grandiloquent, mais très, très chaleureux. Voilà. Et 2 ans après, il est arrêté par la DST, Direction de la Surveillance des Territoires, pour intelligence avec des agents soviétiques, américains, britanniques et allemands. Ce qui est quand même pas rien. Et donc évidemment ça a été une très grosse affaire. Il a été jugé devant la Cour de Sûreté de l'État, qui est une juridiction qui existait à l'époque mais qui n'existe plus, qui a été supprimée en 1981 avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Et alors ce qui est bien, nous, quand on travaille aux Saisons d'Alsace, c'est qu'évidemment, on a les archives des dernières nouvelles d'Alsace et de l'Alsace. Et donc, c'est une mine d'informations absolument formidable. Et donc, on a retrouvé les comptes rendus qui avaient été réalisés à l'époque par le journaliste des DNA. Et qui raconte chaque fois que c'était une atmosphère un peu trouble, que c'était, il parle d'une impression pénible. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas eu vraiment de preuves tout à fait irréfutables de tout ça, mais que finalement, c'était plus quelqu'un d'un peu original, qui aimait bien les affaires un peu louches, qui aimait bien fréquenter des espions, voilà, parce que...
Se faire un peu valoir,
il aimait bien, il avait peut-être un côté un peu romanesque, je ne sais pas. Il n'avait pas trop de problèmes à mêler les affaires privées et publiques, enfin voilà. Mais finalement, on ne sait pas trop si ça allait plus loin. Et ça a été d'autant plus pénible ce procès-là que... il se trouve que ce Maurice Picard avait été, durant la Seconde Guerre mondiale, un résistant, qu'il avait été déporté, et qu'on l'accusait en même temps, lors de ce procès-là, d'avoir été un collaborateur assidu des nazis, qui a une certaine Mona la Blonde qui est arrivée pour le charger durant le procès. Donc voilà, tout ça faisait une atmosphère un peu étrange, qui a été très bien... analysée et décrite par notre collègue de l'époque. Et puis au final, donc il a été condamné quand même à 7 ans de réclusion criminelle. Et donc c'était en octobre 68. Et il a été amnistié finalement l'année suivante, en décembre 69, par le président Pompidou. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça... On a appelé ça l'énigme Maurice Picard. Ce qu'il apparaît, c'est que c'était quelqu'un peut-être un peu imprudent, un peu hableur, mais...
Ça lui a coûté cher, quand même.
Ça lui a coûté très cher, évidemment. Et puis, il y a toute la carrière, il y a l'honneur, enfin, il y a tout ça. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui exprime bien cette atmosphère qui pouvait exister à l'époque de la guerre froide, quoi.
Nous allons marquer une nouvelle pause musicale dans cette émission Passé-Présent. C'est toujours Alain Souchon, un de ses premiers succès. Nous sommes en 1974, j'ai 10 ans.
J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire, je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans. Les filles, c'est les cloches, j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai les prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hé, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tard ta gueule à la récré.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Mon invité aujourd'hui, Hervé de Chalandar, pour la présentation du numéro 93 des Saisons d'Alsace, intitulé « L'Alsace au temps de la guerre froide ». Alors moi, j'ai découvert quelque chose de tout à fait saisissant. C'est le Collège de l'Europe libre qui s'installe au château de Pourtalès, en 1951, qui va y résider pendant 7 ans. C'est une structure universitaire tout à fait singulière, imaginée par la CIA, l'agence de renseignement américaine, pour préparer les futures élites des pays de l'Est.
Voilà.
Donc expliquez-nous de cela, Hervé.
Alors ça, c'est aussi une histoire assez étonnante. En 51, enfin dans les années, au début des années 50, les Américains finalement pensaient qu'ils allaient vite gagner l'affaire et que il fallait quand même terminer le travail, donc faire de la guerre psychologique à l'encontre des pays de l'Est, mais aussi d'ores et déjà penser au futur et former les futures élites de ce qu'on appelait les républiques démocratiques, c'est-à-dire les pays satellites de l'Europe de l'Est, qui étaient les pays satellites de l'Union soviétique. Et donc, il y a eu cette idée qui a été... Alors, la CIA a mis en place comme ça plusieurs organismes, si je puis dire, enfin plusieurs moyens. Il a mis, et il y avait notamment une radio qui s'appelait Radio Free Europe, qui émettait à cette époque-là, pareil, pour faire un peu de la guerre psychologique. Et le deuxième étage de la fusée, si je puis dire, ça a été la création de ce collège en 51 à Strasbourg. Il faut entendre collège au sens anglo-saxon du terme. On n'est pas là dans les études secondaires, on est là dans les études supérieures. Et donc, c'était un institut reconnu par l'éducation nationale française, entre parenthèses, hein, et qui donc accueillait des gens de ces pays, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, etc. Et qui leur faisait des cours comme ça de géopolitique. Alors, on imagine que ces cours étaient évidemment étaient assez orientés avec une idéologie qui était évidemment assez claire. Ils pouvaient avoir des cours la journée en centre-ville, donc dans l'université de Strasbourg, et puis le soir des cours particuliers à Pourtalès, où d'ailleurs on avait construit un bâtiment spécial dans le parc qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, y a eu comme ça plusieurs personnes qui ont été formées. On estime qu'il y a eu environ un millier d'étudiants qui ont été inscrits sur ces 7 ans. Il y a eu des personnes qui ont fait un peu de la politique dans les pays de l'Est dont les noms ne nous disent pas grand-chose. Pour nous, les Français, il y a un nom qui ressort, mais c'est plus pour la variété, si je puis dire, que pour la politique, qui est Henri Chapier.
Oui, alors là, j'étais très surpris.
Ben voilà.
je connais Henri Chapier pour ses émissions de télévision, Le Divan en particulier.
Voilà.
Et je le vois apparaître en photo, d'ailleurs, dans Les Saisons d'Alsace. Expliquez-nous un peu.
Eh ben, il était d'origine roumaine, Henri Chapier, s'appelait Henri Chapiro à l'origine. Et donc, il a fait partie comme ça de ces personnes qui pouvaient être considérées comme des futurs diplomates, des futurs hommes politiques. Et donc, il a fait partie de ces étudiants qui sont passés par ce collège très particulier. Lui, encore une fois, il a pas fait carrière dans la politique, mais enfin, il était l'un de ceux qu'on imaginait pouvoir plus tard reprendre les rênes de son pays. Et puis donc ça a duré finalement assez peu, parce qu'en 58 ça s'est terminé. Il se trouve que peu de temps avant, 2 ans auparavant, il y avait eu l'écrasement de la révolte en Hongrie. et qu'il y a eu de la part de la CIA un petit changement de tactique. Ils se sont dit, on va plutôt, ils avaient peut-être moins d'espoir sur le fait que les démocraties populaires tomberaient rapidement comme ils pouvaient l'avoir eu au début des années 50. Et la stratégie a changé. Ils se sont plutôt intéressés à la guerre psychologique contre l'URSS elle-même. Et l'internat a été fermé donc en 58. Juste préciser là-dessus, sur ce sujet qui était assez méconnu, il y a eu un travail qui a permis de le rendre public et de faire en sorte qu'aujourd'hui il soit étudié et qu'on puisse en parler, fait par une universitaire franco-hongroise qui s'appelle Véronica Durin-Hornik. Et c'est à partir de ce travail-là que l'un de mes collègues, Olivier Claudon, a fait cet article.
Alors, vous signez un article assez saisissant, intitulé « Appelé pour être espion ».
Ouais. Ben ça aussi, c'est des choses qu'on pourrait pas imaginer aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été stoppé assez vite. Ça a été stoppé à partir de 1975, cette affaire-là. Mais j'ai le témoignage de deux Orinois qui, entre 70 et 72... Donc, ils faisaient leur service militaire, comme tout le monde. Comme beaucoup, ils sont arrivés à la gare de Strasbourg, et puis on leur a dit, vous allez ici, vous allez là. Eux, ils se sont dit, on va aller en Allemagne. Ils sont allés en Allemagne, sauf qu'ils sont allés à Berlin. Donc, c'était déjà une petite différence.
Un peu sensible.
C'était un peu sensible. C'était déjà une expérience. Et puis, encore mieux, il se trouve qu'à Berlin, il y avait la caserne française, qui était le quartier de Napoléon. Et puis ils ne sont pas restés. En fait, on les a emmenés après à Potsdam, qui est au sud-ouest de Berlin, et qui était à l'époque donc à ex-RDA. Berlin, il y avait cet îlot occidental qui était Berlin-Ouest, mais tout le reste, c'était derrière le rideau de fer. Et donc, ils se sont retrouvés à Potsdam. Et là, on les a affectés comme chauffeurs au sein de la mission militaire française de liaison. Alors, les missions militaires, c'était des organismes qui avaient été créés juste après-guerre, pendant le temps de la guerre froide, pour faire la liaison entre les différentes puissances occupantes de l'Allemagne à l'époque. Donc il y avait l'Union soviétique, il y avait la France, il y avait le Royaume-Uni et il y avait les États-Unis. Et pour que ces gens puissent communiquer entre eux, se parler, ces puissances occupantes, il y avait ces missions militaires, une sorte d'ambassade, quoi. Et très vite, dès l'origine en fait... elles ont servi à s'espionner les uns les autres. En l'occurrence, les trois occidentaux espionnant le soviétique et inversement. Et donc, c'était le grand jeu d'aller voir ce que faisaient les uns les autres, ce qui tramait. Et ces deux jeunes appelés, qui avaient une vingtaine d'années, ont été affectés donc, à la mission militaire française de liaison qui était à Potsdam, où ils étaient chauffeurs. Et donc, leur mission, ce qu'on leur demandait, c'était de conduire comme ça des missions avec un officier, un sous-officier français, où ils allaient espionner ce qui se passait en RDA. Donc ils allaient là où ils n'avaient pas le droit d'aller, c'est-à-dire près des gares, près des casernes, près des aérodromes. Et leur mission, c'était de ne pas se faire prendre. Alors il fallait qu'ils passent par des petits chemins, parfois ils étaient coursés. Alors tant qu'ils restaient dans la voiture, ça allait. Mais il fallait pas qu'ils se fassent coincer quelque part dans une impasse où ils étaient obligés de sortir à un moment donné parce que là on pouvait leur tomber dessus. Donc c'était pareil, c'était un peu du James Bond, et tout ça. Il y avait quand même une certaine responsabilité qui était confiée à des appelés. Et comme je le disais au début, ça s'est arrêté en 75. À partir de 75, ce sont été des officiers, sous-officiers qui ont fait ce travail-là. Mais donc, ces jeunes à l'époque ont vécu des expériences totalement extraordinaires.
Ça laisse des souvenirs.
Ah bah ça, sacrément. Et puis alors, ils avaient en plus le laisser-passer, Propusque, excusez la prononciation, excusez l'accent, qui était un laissez-passer soviétique qui permettait en fait de passer librement de l'Est à l'Ouest. Donc eux, Checkpoint Charlie, c'était pas un problème pour eux, rentrer dans Berlin-Ouest, sortir de Berlin-Ouest, et voilà, ils avaient cette espèce de pouvoir extraordinaire. Et on a un autre cas aussi qui est assez intéressant, qui est raconté dans ce numéro-là, qui est aussi en rapport avec les missions militaires de liaison. Alors quelqu'un inverse. C'est un Alsacien, donc là on avait des Français, en l'occurrence des Alsaciens, qui allaient espionner ce que faisaient les Soviétiques, et là c'était la même chose aussi, mais c'était un Alsacien qui espionnait la mission militaire soviétique de liaison. Donc lui il espionnait Les membres de la mission militaire soviétique, tout à l'heure c'était les membres de la mission militaire soviétique française qui est allé espionner, et là il espionnait les Russes, et il faisait ça depuis sa chambre à coucher à Baden-Baden. Et donc officiellement il était traducteur, officieusement il était espion, et donc sa chambre à coucher, on le logeait dans une villa qui était juste en face de la villa de la mission militaire soviétique de liaison. Et donc, il les espionnait jour et nuit depuis sa chambre à coucher. Donc, avec des moyens qui, à l'époque, étaient rudimentaires, parce qu'aujourd'hui, évidemment, les choses ont énormément évolué à ce niveau-là, avec des jumelles, avec des lunettes infrarouges. Il faisait des photos. Il relevait tous les numéros d'immatriculation. Quand il y avait une voiture qui sortait, il envoyait un suiveur qui suivait. Et c'était un jeu de dupes, parce que tout le monde était au courant, évidemment. Et les autres faisaient la même chose. Et pour Noël, ils s'offraient des cadeaux. Mais ça a été son métier pendant un temps très long. Je crois qu'il a fait ça entre 76 et 91. Donc le télétravail, il connaissait, évidemment. Les récup, il connaissait pas trop. La nuit, il se réveillait dès qu'il entendait une voiture rouler. Il regardait la bande, il se débrouillait comme ça. Et il a réussi quand même à avoir des infos. À un moment donné, un ambassadeur soviétique qui est venu dans la mission militaire, c'était pas anodin, il a pu le repérer, il faisait des photos, voilà. Et tous les soirs, il avait donné son rapport. Donc là encore, on est dans des histoires qui paraissent aujourd'hui très romanesques, quoi, mais qui sont ce qu'était le monde, et en particulier l'Alsace et l'Allemagne, au temps de la guerre froide.
Vous évoquez également dans ce numéro 93 des Saisons d'Alsace le témoignage d'un certain nombre d'Alsaciens qui ont passé un temps, du moins de la guerre froide, à Berlin.
Oui, alors ça, c'est vrai que j'en parlais avec les jeunes appelés qui se sont retrouvés à Potsdam et puis qui étaient aussi dans Berlin-Ouest. C'était une atmosphère totalement incroyable, et donc ça nous paraissait quand même important d'aller retrouver des Alsaciens qui avaient vécu cette période-là, et donc ce îlot de liberté, parce que bon, il faut que c'est pas prendre parti que de le dire, qui était Berlin-Ouest, dans le monde de la RDA. Et donc, des gens qui c'était des femmes qui étaient dont les maris travaillaient au sein des forces françaises en Allemagne, enfin à Berlin, qui racontent comme ça ce paradoxe, quoi, entre la douceur de vivre qu'elles pouvaient connaître à Berlin-Ouest et puis ce qui se passait dès qu'on en sortait. Il y avait ces fameux trains de Berlin dont on n'avait pas le droit de soulever les rideaux pendant qu'on traversait la nuit l'ex-RDA, mais tout le monde soulevait les rideaux, évidemment, pour voir des chars, pour voir des miradors, pour voir des gens avec des mitraillettes, etc. Donc il y a cet aspect-là. Et puis oui, c'était important de raconter un peu ces deux mondes, quoi, qui pouvaient coexister d'un côté du mur et de l'autre. Et on a aussi le témoignage de Thierry Didier de Fraisse, qui est lieutenant-colonel, qui est l'adjoint au gouverneur militaire de Strasbourg pour le Bas-Rhin, qui est le délégué militaire départemental 67, et qui, lui, était un jeune officier à l'époque et qui s'est retrouvé à devoir, pendant quelques mois, aller en garnison au quartier Napoléon, et qui a conduit des chars, des MX-30 comme ça dans Berlin. Et donc, évidemment, pour lui, qui était armé, hein. Pour lui, c'est un souvenir assez fort. Mais on ne pouvait pas ne pas parler de cette particularité de Berlin-Ouest, quoi, qui, encore une fois, paraît aujourd'hui totalement surréaliste, ce monde-là.
Hervé de Chalendard, le prochain numéro des Saisons d'Alsace, le numéro 94, sort dans quelques jours, à la fin du mois d'octobre. Vous pouvez nous en dire un mot? Vous viendrez, bien sûr, le présenter
volontiers.
En détail une prochaine émission.
Ça ne sera pas le 94, parce que ça sera un hors-série.
D'accord.
Donc c'est sur l'incorporation de force. Le 94 va sortir aussi prochainement, c'est une collègue qui s'en occupe, ça sera sur les arts de la table. Lalique, Beauvillé, etc. Et donc, celui qui sort prochainement, le samedi 29 octobre, c'est sur l'incorporation de force. Donc évidemment,
c'est le 80e anniversaire.
Voilà, c'est le 80e anniversaire. Alors je disais, la guerre froide, on l'a pas traité. Évidemment, l'incorporation de force, on l'a traité, mais il faut le retraiter parce que finalement, ça reste un sujet contemporain. C'est tellement sensible, ça se prolonge, quoi. Et il y a encore des actualités qui sont liées à ça. Il faut encore analyser ça. Il faut encore si possible, aller voir les derniers survivants, ce qu'on a essayé de faire. Ils ont aujourd'hui entre 96, ce qu'on a vu, en 96 et 101 ans. Donc, mais ils sont encore là. C'est important qu'ils nous racontent ce qu'ils ont vécu, qu'ils nous confient ce qu'ils ressentent. Et c'est important d'essayer de clarifier, si possible, ce sujet qui est extrêmement complexe. C'est d'une complexité folle, l'incorporation de force. Péché originel, évidemment, c'est qu'on a incorporé des gens qui étaient français. L'annexion de fait, c'est comme son nom l'indique, c'est une annexion de fait. Selon le droit international, les Alsaciens et les Mosellans ont toujours, n'ont jamais cessé d'être français. En plus, incorporés dans un régime totalitaire contre leur propre patrie, sur les fronts les plus durs. Enfin bon. Et donc, oui, c'était essentiel d'y revenir une nouvelle fois, et donc on a essayé de le faire au mieux.
Donc, je lance déjà l'invitation.
Merci
au
beaucoup.
Au courant du mois de novembre, on va trouver une date ensemble, Hervé, pour que vous puissiez présenter par le menu ce hors-série des Saisons d'Alsace consacré à l'incorporation de force. Nous nous séparons en chanson avec toujours Alain Souchon, un titre de 1977, Poulailler Song.
C'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas? Y a des endroits la nuit où les peaux qui vous font la peau sont plus bronzées que nos petits poules beaux. Mais comprenez-moi, la djé là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y a des taxis qui ont peur du noir. Les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traits de misère? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. C'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y a des montagnes ici qu'on perd du noir. Comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Ne croyez pas que ce soit borné, le genre rétrograde avancé. Je compte parmi les gens que j'aime bien un jeune avocat africain. N'est-ce pas, cher ami?